Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Vous êtes bien connectés sur
Mon Paris FM Olympique
2024.
Il y a plus de billets qui ont été vendus ces dernières semaines, mais il en reste encore beaucoup. Est-ce qu'il y a une crainte d'avoir des tribunes un peu dégarnies à certains endroits? Je pense à des stades de France où c'est très grand, il y a beaucoup de place.
C'est vrai qu'on a des sites avec de grandes capacités au niveau de la paranatation, au niveau de la para-athlétisme, et qui sont en plus des sports qui durent sur la totalité des Jeux paralympiques. Donc c'est un défi qui est devant nous. On le sait, on en est conscient, mais on a les ingrédients, on a les armes pour y arriver, parce que ces sites, ils sont absolument fabuleux. Alors oui, on n'est pas au Grand Palais, oui, on n'est pas à Versailles, mais cette piste violette, elle est absolument magnifique. La piscine, quand on l'a vu comme ça se mettre aux couleurs, aux lumières, quand vous avez le show qui se met en place, ça donne des moments absolument merveilleux. Et surtout, au sein de ces arènes sportives, vous allez avoir des athlètes extraordinaires. Donc c'est important que les Français viennent. Et souvent sur ces sports-là, ce qu'on nous dit, c'est j'ai commencé à regarder les places, mais j'ai pas très bien compris la classification. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est peut-être de dire aux Français d'aller voir les outils pédagogiques qui existent pour comprendre les disciplines, pour comprendre les règles, et puis de comprendre qu'à un moment donné, vous avez pas besoin d'être un puriste de la classification dans tous les sports pour vibrer, pour encourager, et pour connaître que quand il y a un bleu, blanc, rouge sur un maillot, c'est l'équipe de France, donc faut crier. Il faut encourager. Voilà. C'est aussi ça la magie du sport, c'est de se laisser transporter par des sports qu'on connaît moins, par des athlètes qu'on connaît moins. Mais à la fin des Jeux, nous aussi, le public, il criera « Allez Hugo, allez Alexis, allez Marie », parce que c'est aussi la promesse de nouvelles icônes qui doivent émerger lors de ces Jeux paralympiques.
Juste une question. Pour ces Jeux, c'est 1000 taxis qui ont été mis en place, soit beaucoup plus que d'habitude. Donc sur l'accessibilité, peut-être ça donne des idées, même si tout n'est pas encore parfait, parce qu'il y a aussi des contraintes techniques, bien évidemment, sur Paris, par exemple. Quelle idée ça peut donner pour encore peut-être aller progresser un petit peu plus, justement?
En fait, il y a eu la mise en accessibilité du bus, du tramway, des gares. La ville de Paris également, qui a travaillé sur des quartiers en accessibilité augmentée. Et tout ça, en fait, c'est des réflexes maintenant qui sont pris. Donc là, on était, on va dire, à l'échelle expérimentale, soit à l'échelle de quelques réseaux de transport, soit à l'échelle d'une ville. Maintenant, c'est quelque chose qui doit essaimer dans l'ensemble des collectivités. On doit se dire, mais si Paris l'a fait, si Troyes a construit un complexe totalement accessible de para-escalade et de parasport, la Seine-Saint-Denis a développé le prisme, ça veut dire que moi aussi, dans mon territoire, finalement, je peux mettre le besoin de la personne en situation de handicap comme un critère premier de la ville de demain, de mes constructions de demain. Et tout ça, c'est pas qu'une question de sous, c'est surtout une question de réflexe, c'est une question de bon sens. Et il faut penser par la norme, ça c'est sûr, on doit respecter la norme, mais avant tout parlons de l'usage, allons à la rencontre des personnes en situation de handicap, questionnons-nous de leurs besoins, questionnons-nous, c'est quoi le besoin d'une personne en situation de handicap dans son cheminement quotidien, et comment je peux répondre moi à ce besoin, d'avoir une fluidité, d'avoir une mobilité qui n'est pas empêchée chaque jour.
Il y a quelques jours, M. Andrew Persson disait que c'est l'éducation qui était la clé principale pour changer le regard sur le handicap. Vous, c'est quoi votre regard là-dessus? Quelles sont peut-être les choses qui peuvent changer par peut-être un ou deux exemples?
En fait, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des réflexes que les gens doivent prendre. Et bien souvent, quand on développe un projet, quand on met en place une méthode managériale, quand on pense une ville, on pense pas à la personne en situation de handicap. Et cet enjeu éducatif, en fait, c'est dès tout petit d'installer le fait que on est tous différents les uns des autres, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et donc que ce besoin singulier de la personne en situation de handicap, dès l'instant qu'elle est aux prémices d'un projet, on peut totalement l'inclure. Et derrière, on peut faire un lieu du vivre ensemble qui est beaucoup plus simple, qui est plus facilité, qui est très cohérent pour la personne en situation de handicap, mais qui ne va pas du tout être perturbant pour la personne qui n'est pas porteuse de handicap, bien au contraire.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien connecté sur
Mon Paris FM Olympique
2024.
Je suis contente parce que je me suis portée candidate, donc c'est que je voulais quand même être porte-drapeau. Et puis oui, c'est de l'émotion, c'est de la reconnaissance aussi de ma fédé et des athlètes, donc fierté.
Quel appel lancez-vous pour ces Jeux paralympiques? Les Jeux ne sont pas finis, bien sûr.
Non, les Jeux ne sont pas finis. Là, on les laisse se reposer. Comme le disait Andrew, on les laisse se reposer. On les laisse reprendre des forces pour justement revenir de plus belle sur les Jeux paralympiques. Et moi, ce que j'attends, c'est des stades pleins. C'est des personnes qui viennent voir du parasport. Et comme le disait Marie-Amélie Le Fur, pas besoin de connaître toutes les règles. même moi dans certains sports, je ne connais pas toutes les règles. Donc, mais ça n'empêche que quand je vais dans un stade, quand je vais encourager des athlètes, eh ben, j'y vais pour les encourager, pour les porter et vivre avec eux l'émotion qu'ils sont en train de nous partager.
Dernière question, vous souhaitez que ça soit des jeux similaires aux Jeux Olympiques ?
Pardon,
vous souhaitez que ça soit des jeux similaires aux Jeux Olympiques ?
Ben, similaire dans la ferveur, similaire dans le taux de remplissage des stades. Après, ce sera forcément différent parce que c'est des protagonistes différents, parce que ce sera peut-être un public différent, mais en tout cas, le résultat final sera le même.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Comment avez-vous vécu le fait d'être une des dernières relais de la flamme olympique ?
Ah, c'était assez dingue. Franchement, c'était assez dingue parce que déjà, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai appris finalement très tard comment ça allait se passer, ce qu'on attendait de moi et quel rôle j'allais avoir. Et en plus de ça, le vivre avec Marie-Amélie Le Fur, qui a été ma camarade de chambre pendant des années, avec qui on a vécu beaucoup d'émotions sportives, vivre ce dernier relayeur, de ce dernier passage de relais avec elle et avec Alexis Anquinquant, qui est mon co-capitaine de l'équipe, bah, ça faisait que tout était réuni pour que la magie s'opère, pour que l'émotion soit là. Donc ouais, non, c'était beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions et aussi reconnaissante de vivre ce moment.
Et comment vous vous sentez physiquement et mentalement à l'approche de la compétition pour votre épreuve ?
Ça va aller. Il me reste du temps. Ça va aller.
Oui, Vanessa Saxic pour Paris FM. Quand vous regardez justement depuis 2012 par exemple, le regard qui a évolué sur le paralympisme, sur le handicap et ces Jeux paralympiques qui auront lieu à la rentrée, justement la rentrée scolaire, qu'est-ce que vous vous dites? Et peut-être ça peut être aussi un encouragement pour les enfants, qu'ils soient handicapés ou non, pour pratiquer du sport.
Alors, comme je disais, hein, je suis sûre et certaine qu'il y aura un avant et après Jeux paralympiques, que ce soit dans l'accès au sport, que ce soit dans l'envie de pratiquer une activité physique, que ce soit par les jeunes, par les moins jeunes, par les personnes en situation de handicap ou non. Et oui, je pense vraiment qu'il va y avoir un avant et un après. Ouais.
Merci beaucoup.
Et concernant la cérémonie d'ouverture, on a vu deux cérémonies là qui étaient assez exceptionnelles. Vous vous attendez à quoi pour celle qui arrive?
À quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ben ouais, ben oui, je m'attends à. J'ai confiance en Thomas Joly. Il nous a montré aussi qu'il pouvait faire des trucs assez dingues. Moi, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture. Je l'ai trouvé. C'était complet. Il y avait de la diversité, il y avait des choses historiques, il y avait du moderne, il y avait de l'ancien. Pour moi, il y avait de tout. Toutes les communautés étaient représentées. Il y avait des athlètes paras dans plein de tableaux. Tout était là, tout était parfait. Et les tableaux étaient magnifiques. Moi, je les regardais le lendemain à la télé, enfin voilà, pour avoir vraiment toutes les émotions. Et donc, je suis sûre et certaine que il y aura la même chose pour les Jeux paralympiques. J'ai pas de doute là-dessus, vraiment. On a, nous, notre défilé, ce sera le bas des Champs-Élysées et autour de la Concorde. On va passer sur des sites assez dingues. La France et Paris a la chance d'avoir des monuments qui sont quand même assez majestueux. Et donc, je suis sûre que Thomas Joly va se servir de ça pour nous faire une cérémonie du tonnerre.
Vous dites que vous allez être porte-drapeau et donc à l'intérieur du groupe d'athlètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ben non, il faudra regarder ou être là.
En effet, dans cette cérémonie d'ouverture, elle a été magnifique. Est-ce qu'il y a peut-être un moment qui vous a particulièrement marqué et peut-être aussi un moment dans ces Jeux qui vous a fait vibrer le cœur encore plus fort ?
Sur la cérémonie d'ouverture, à un moment, c'est un peu dur. Le moment qui m'a marqué, c'est... Alors, un seul, c'est trop dur. Plusieurs. Ouais, voilà. Forcément, quand moi, j'ai récupéré la flamme des mains de Tony Parker, que je la donne à Alexis, qu'il la donne à Marie, et qu'on a ce moment-là, pour moi, c'est un moment assez magique. Quand Marie-Jo s'avance vers Teddy pour le rejoindre et allumer la vasque, moi je trouve que c'était juste magnifique. Même moi qui vois pas bien, j'ai trouvé ça super beau. Alors j'imagine ceux qui voient très bien. Et puis aussi, moi j'ai adoré le tableau avec Aya Nakamura et la garde républicaine. Là, moi j'ai trouvé ce tableau magnifique. Tout était là, voilà. Et sportivement,
vous avez le droit à plusieurs.
Merci. Sportivement, je pense que il y a pas mal d'athlètes qui se sont transcendés. Je pense notamment au relais, au 400 mètres haies avec Clément Ducos qui a fait trois courses, mais juste
gigantesque. Alors c'est pas passé, il finit quatrième, mais pour moi il a réussi ses jeux. Ça pour moi c'était un moment assez fort. Et je pense aussi le moment où les basketteurs partent de Lille sur une défaite, qui sont qualifiés en quart de finale, et on a senti à un moment donné qu'ils ont switché dans leur cerveau pour justement aller décrocher des victoires. Là pour moi ça a été un moment aussi assez marquant. C'est-à-dire que tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, tout est possible. Voilà.
Merci. Vous êtes bien connectés sur
Mon Paris FM Olympique
2024.